Vous écoutez
RMC. RMC, le Mosca.
Alors, avec les premières infos sur les blessures de fin de match d'hier, tout va bien pour Nuno Mendes. En revanche, c'est moins rassurant pour Hakimi. Hakimi qui a fini le match blessé. Alors, a priori, sur les premiers examens, il ne s'agirait pas seulement de crampes, mais au moins d'une petite contracture. Il doit passer d'autres examens dans la journée. Et donc, pour l'instant, il est incertain pour le match retour de mercredi. S'il devait être forfait, c'est Warren Zaïre-Emery qui tiendrait la place d'arrière droit.
On n'a aucune
info pour le moment sur Kvaratskhelia, mais ça semblait quand même moins important que pour Hakimi.
Ouais. Voilà. Fracture, ça veut rien.
Ça t'en convient, Eric?
Une semaine, c'est court.
C'est
fait.
Très court.
C'est-à-dire
que ça n'est pas la profondeur. Après, c'est.
Contracture de Denis, c'est de 15 jours.
Ouais.
Après, il est pas sorti tout de suite parce que toutes les sessions de changement étaient consommées.
Oui, la troisième.
Donc, s'il sort, il joue à 10, il termine à 10, et c'était chaud. Il a peut-être un peu forcé aussi, hein.
Peut-être, ouais. Mais bon, il y a pas le choix.
Contracture, même s'il a forcé, c'est contracture, c'est pas une déchirure.
Oui. C'est pas une déchirure. Déchirure, il aurait pas fini le match.
Non.
Bah oui, d'après 15 jours.
Qu'est-ce que t'en penses, Eric, toi?
Il prend la contracture.
Écoute, on prend tout, nous, tu sais.
Vas-y, dis-nous.
On prend tout, nous, hein. On prend tout ce qui tombe, là. Une contracture,
une déchirure.
Il y en a, j'ai cru qu'il s'était pété.
Un écartèlement, tout, quoi.
Et oui,
j'ai cru qu'il s'était pété.
Alors après, attention, tu sais. Kvara, quand il se touche l'arrière de la cuisse, il vient de perdre un duel. Et parfois, tout le monde l'a fait. Hein.
Ah oui,
t'es vexé un peu de perdre un duel. Tu dis, ah merde, j'ai mal à un duel.
Ah ouais,
j'ai une pointe.
Donc là, il fait croire qu'il s'est fait prendre, alors il y a rien.
Ça, c'est en première mi-temps, hein, donc il finit le match quand même.
Ouais, mais j'ai cru qu'il s'était pété. Moi.
Alors, on zappe. On y reviendra à 17h. On va parler de l'autre demi-finale entre l'Atlético de Madrid et Arsenal ce soir. On a l'image d'une demi-finale entre deux équipes beaucoup plus défensives. Mais il faut peut-être revoir ce jugement parce que l'Atlético a changé. Nous sommes en direct de Madrid avec Edgar Grollo. Bonjour Edgar.
Salut Pierre, salut Vincent, salut tout le monde.
Et Diego Simeone a fait évoluer le jeu de l'Atlético au fil des années. Hein.
Oui, bien sûr, on ne peut pas dire qu'une équipe gare le bus quand elle tourne à 2,4 buts en Ligue des Champions cette saison par match. Hein. 34 buts en 14 matchs, il n'y a que le Bayern et le PSG qui ont plus marqué. Et d'ailleurs, en défense, l'Atlético, c'est 1,8 buts encaissés par match dans la compétition. C'est le pire ratio parmi toutes les équipes qui ont joué au moins les quarts de finale. Le Cholismo, il existe encore, mais il a changé. Il y a des choses qui restent. C'est vrai, Diego Simeone n'hésite pas à demander à ses joueurs de se regrouper derrière quand il estime que c'est la meilleure option. C'est pour ça qu'on a vu l'Atlético beaucoup défendre face au Barça en quart. Mais ce qui a changé par rapport à il y a quelques années, c'est l'attaque. Diego Simeone a compris qu'il ne doit pas avoir peur de mettre le deuxième but. On l'a vu cette saison, 5-2 contre le Real, 5-0 contre le Betis, 4-0 contre le Barça en coupe, et aussi plein de matchs moins médiatisés en championnat où l'Atlético a fait le jeu. Et puis ce changement de style, on le voit dans l'effectif. Il n'y a jamais eu une telle armada. Griezmann, Alvarez, Sorloth, Almada, Baina, son fils Giuliano Simeone. Et malgré tout, malgré cet effectif-là, il est quand même allé chercher Lookman en plus au mercato d'hiver, qui est typiquement le type de joueur qu'on ne voyait que très rarement à l'Atlético.
Ouais, à des mois-là, Lookman qui s'est rapidement intégré. D'ailleurs, c'est vrai que les compos d'équipe de Simeone, c'est beaucoup plus offensif qu'avant. Parfois, ils jouent avec 4 offensifs, Eric. Hein.
Non, mais d'ailleurs, ils prennent des buts. Hein. Tu regarderas, ils prennent des buts. Donc, c'est vrai que c'est une équipe qui a chargé. Alors, est-ce que c'est Simeone qui a chargé, ou alors est-ce que c'est par rapport aux forces offensives et aux joueurs qu'il a devant, et peut-être même les manques qu'il a sur certains postes au milieu ou derrière, hein, qu'il est parti sur ce schéma-là et cette animation-là. En tout cas, c'est malgré tout, dans les 4 équipes qui reste, c'est quand même malgré tout l'équipe qui défensivement est peut-être plus solide. Voilà, mais c'est vrai que c'est plus son point fort comme avant. Ils ont des vrais atouts offensifs et de vrais arguments.
Qui est favori de cette demi pour toi, Eric?
Moi, j'ai l'impression que l'Arsenal est en train de
perdre le fil.
Regarde, ça a été compliqué le tour d'avant pour passer. Hein,
Finalement, c'était vrai, contre le Sporting, difficile.
Et voilà, contre l'équipe la plus faible, peut-être des quarts de finale. Alors que l'Atlético.
Mais bon, il retrouve Odegaard qui va finir par reprendre du rythme et peut-être retrouver son influence.
Peut-être. Mais moi, j'ai quand même l'impression, si je devais mettre une pièce, je sais pas, je mettrais une pièce sur
l'Atlético. Plutôt l'Atlético, ouais. Denis aussi. Très bien.
Avec Grisou. Ah,
surtout que je me dis en réalité ma réflexion c'est je me dis quelle équipe en finale pourrait casser le plus les pieds au PSG comme les Anglais, ils se font rouster comme des petits enfants.
Ouais, on perd jamais contre les Anglais. Jamais. Ah,
je me dis bon ben un petit espagnol
et puis,
qui arrive là.
Et puis t'aimes tellement Griezmann que tu souhaites qu'il gagne la Ligue des Champions une fois dans sa vie.
Non mais attendez, on peut le faire ce débat là, on l'aime tous Grisou.
Ben oui.
On aime tous Grisou quand même. Même Pierrot, je suis sûr qu'il serait content pour Grisou.
Mais quitte à perdre, je préfère que ce soit contre l'Atlético de Madrid sans problème.
Voilà, tu vois qu'on est d'accord. Ben voilà. Mais moi aussi, quitte à gagner, je préférerais que ce soit pour l'Atlético.
Alors, on zappe le foot. Et on va donc rendre hommage à l'équipe de Bourg-en-Bresse en basket, puisque c'est un exploit du club de Freddy Fautou qui a remporté l'Eurocup hier, la deuxième Coupe d'Europe après l'Euroleague, comme Paris il y a deux ans, comme Monaco en 2021, deux équipes qui sont maintenant solidement installées en Euroleague, parce que c'est l'une des spécificités de cette Eurocup, c'est que le vainqueur est qualifié pour l'Euroleague, quel que soit son pédigré. Or, Bourg-en-Bresse a pas vraiment la structure pour aller en Euroleague. On va en parler avec Félix Gabory. Salut Félix.
Salut Pierrot, salut tout le monde.
Alors Félix, d'abord le match, Bourg-en-Bresse a battu Beşiktaş en deux matchs et donc n'a pas laissé l'opportunité aux Turcs d'avoir un match d'appui. Et donc va s'ouvrir les portes de l'Euroleague en grand la saison prochaine. Est-ce qu'ils y seront, c'est une autre question.
Alors déjà, Bourg-en-Bresse, c'est quand même une petite ville de 40 000 habitants qui vient de remporter l'équivalent de la Ligue Europa en foot, pour se rendre compte de l'ampleur de l'exploit. Et toujours pour se rendre compte de ce qu'ils ont fait, il suffit de regarder la différence de moyens entre les deux finalistes, avec une masse salariale 3 à 4 fois supérieure pour Beşiktaş par rapport à celle du club français, qui est d'environ 2,3 millions d'euros. Mais Pierrot, tu l'as dit, ce fossé, c'est rien par rapport à ce que Bourg-en-Bresse pourrait connaître en Euroleague. Car en remportant l'Eurocup, ils ont théoriquement gagné le droit d'intégrer la plus prestigieuse des compétitions européennes dès la saison prochaine. Je dis bien théoriquement, car rien ne les oblige à accepter cette invitation qui pourrait vite devenir un cadeau empoisonné et mettre le club en péril financièrement. Pour comprendre, il suffit de regarder les masses salariales des trois autres clubs français en Euroleague. C'est 4,5 millions pour l'ASVEL, qui est la masse salariale la plus basse de la compétition, 8 millions pour Paris et entre 15 et 20 millions pour Monaco. En gros, il faudrait au moins que Bourg-en-Bresse multiplie sa masse salariale par deux, et même en faisant ça, il serait le petit pousset, ils auraient du mal à exister dans une compétition qui rajoute quand même 38 matchs à ton calendrier par saison. Donc la grande interrogation, c'est de savoir si le club a les reins solides pour prendre ce risque. Et la question, elle a justement été posée hier soir au président Julien Desbottes, qui a dit, je cite, « Ça me met complètement le vertige et c'est un sujet pour après. » Car avant tout ça, on peut quand même leur laisser le temps de un petit peu profiter de leur sacre.
Alors donc eux, ils vont décider s'ils y vont ou pas, mais est-ce que l'Euroleague peut leur refuser l'invitation ou c'est
pour l'année,
question, ça
pour l'année prochaine, pas du tout.
C'est réglementaire.
C'est automatique. Vu qu'ils ont gagné l'Eurocup, c'est s'ils veulent y aller, ils iront. Après, c'est une autre question de s'ils auront une licence permanente.
Mais tu peux refuser, tu peux dire on y va pas.
Ils sont pas obligés de s'y engager, oui.
Voilà, c'est ça. Et la grande question, c'est est-ce que l'Euroleague, pour les saisons d'après, auront envie de leur donner une licence sur le plus long terme?
Ça, c'est la grande question. C'est peu probable.
C'est très peu probable. Est-ce qu'il peut jouer dans la réflexion aussi de Bourg-en-Bresse en se disant, si on y va pour faire juste un one-shot, quel intérêt?
L'intérêt peut être éventuellement économique. Je sais pas si ça rapporte tant d'argent que ça, mais.
Savoir combien ça rapporte.
Oui, avec l'augmentation de ta masse salariale, c'est pas sûr que le bilan soit positif, c'est sûr. Bon, bravo quand même Bourg-en-Bresse, bravo Freddy Fautou, qui est, je te le rappelle, Vincent, le sélectionneur de l'équipe de France.
C'est double casquette,
comme ça que ça se passe en basket.
Comme toujours, ça se fait en basket, c'est rare.
Bourg-en-Bresse.
Mais écoute-moi, Bourg-en-Bresse, c'est incroyable parce qu'ils avaient une équipe de rugby qui était très forte aussi, surtout chez les jeunes, et ça marchait bien, ils ont le basket. 40 000 habitants,
c'est au cercle. La ville de naissance de Julien Beneteau. Il y a des stars qui sont nés à Bourg-en-Bresse.
Au basket, la deuxième Coupe d'Europe, elle est bien au foot, non? Donc, du coup, là.
Au foot, elle est bien, mais c'est que Vincent qui trouve qu'elle n'est pas bien.
Mais ça n'a rien à voir.
Elle est convaincue de sortir, Eric, là.
Denis, rappelle-nous l'adversaire quand même de Bourg-en-Bresse pour être sûr.
Ouais, Denis.
En finale.
C'est lequel?
Les Turcs.
Les Turcs de
Alors, c'est pas ceux-là?
Non.
C'est ceux qui jouent en noir.
Galatasaray.
Non. Le troisième encore.
Le Beşiktaş.
Ah, voilà.
Merci.
Beşiktaş.
Merci Félix.
Là, il a fait un triplé, là. C'est un accident de voiture, le truc.
Galatasaray, c'est bon.
Non,
si. Galatasaray.
Franchement, tu étais pas loin.
Bon, alors, deux autres infos. Les Spurs qualifiés en 2021. demi-finale de conférence, oui. On aura le temps d'en reparler. En revanche, un coup dur pour Bordeaux en rugby, puisque Jefferson Poirot sera suspendu pour la demi-finale de Champions Cup face à Bath suite à son carton orange reçu ce week-end.